Bonsoir à tous. Donc, nous allons commencer le conseil municipal, d'où je vais faire l'appel. De Voisin Brigitte, donc présente. Capo Bernard.
Présent.
Georgette Amélie.
Présente.
Jean Malin.
Présent.
Marie-Hélène Cabas.
Présent.
Steve Chrétien.
Présent.
Béatrice Rouquayrol. Jean-Pierre Deconte.
Présent.
Bruno Barrascud.
Présent.
Bruno Baille.
Présent.
Michel Boyer, représenté. Christian Crespi.
Présent.
Valérie Gombert.
Présent.
Frédéric Guédan.
Présent.
Véronique Jeannin, absente. Eda Lagrifol.
Présent.
Olivier Masson. Absent. Christian Raymond. Absent. Rivain Sophie.
Présent.
Marilyn Serre. Représentée. Michel Thomas.
Présent.
Sabine Touroulier, représentée. Michel Bourrelli.
Présent.
Myriam Gelsomino,
représentée.
Jean-Marie Prosperi.
Présent.
Jean-Paul Bord.
Présent.
Céline Gaulin.
Présent.
Le quorum est atteint. Le conseil peut commencer. Nous allons nommer un secrétaire de séance ou une secrétaire de séance. Donc je vais garder l'ordre. Et donc, normalement, c'est Monsieur Guédan. Monsieur Guédan, donc, je vous propose Monsieur Guédan comme secrétaire de séance, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Monsieur Guédan est secrétaire de séance ce soir. Ensuite, il faut adopter le PV du dernier conseil municipal. Vous l'avez eu. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur le PV, Monsieur Bord? Alors, il faudrait donner un micro là et un micro. Monsieur le Fabrique, vous avez un micro à
cela a été fait jusqu'au compte rendu du conseil municipal du 30 septembre 2021 pour les informations. Point information. Deuxième remarque, question. Oui, c'est bon. Vous n'avez pas compris.
Non, j'ai pas compris la
remarque. La remarque est la suivante. Concernant le point information, il y avait plusieurs points. Et ils sont simplement indiqués, Pondulaise et Bazeville-Liotel, sans rien dire.
Sans explication, vous voulez dire?
Sans une explication, même courte. Je vois par exemple pour le Pondulaise, me paraît très intéressant d'indiquer la date de fermeture. Il sera fermé le. Donc ça peut être intéressant pour les habitants. Voilà, même une information courte, mais d'habitude c'était fait. Et alors, il en est de même pour les questions orales. Je voulais vous demander de préciser par qui sont posées les questions orales. Alors, c'était fait jusqu'au compte rendu du conseil municipal du 30 septembre, et puis ce n'est plus fait. Voilà. Merci. Alors, troisième remarque. Nous regrettons que l'audio ne soit toujours pas séquencé, c'est-à-dire avec accès à chaque point de l'ordre du jour, comme cela est fait pour les conseils de la métropole de Montpellier, par exemple. Cela permettrait à toutes et à tous de n'écouter que le ou les points qui l'intéressent, et non la totalité des deux audios, qui durent quand même 1h30 à 2h. Le dernier, le 3 février, durait 1h39. Ça fait beaucoup, hein. J'ai regardé le conseil de métropole et c'est bien que ce soit.
Je suis d'accord, on n'a pas les mêmes systèmes, on n'a pas voilà, tout ça, mais par contre, on peut très bien avancer l'audio pour aller sur les points. Voilà.
Mais c'est pas facile.
Après le séquencement, je sais que c'est compliqué, Amélie. Le séquencement, c'est compliqué.
Mais on a un outil très basique, donc on n'a pas du tout les mêmes outils techniques et technologiques, ni les ressources pour faire tout ça. Donc,
et enfin, dernière remarque, nous pouvons regretter, alors que le conseil municipal avait largement commencé, appel, secrétaire aussi en choisi, etc., etc., premier point maintenant savez que la décision de Madame le maire de demander à Madame Gelsomino de quitter le conseil municipal n'ait pas été mentionnée dans ce compte rendu tout simplement. Je pense que Myriam Gelsomino a dû quitter le conseil municipal, parce qu'il aurait été normal de l'indiquer, d'autant plus que dans l'audio, on entend qu'elle est là et puis qu'elle va. Voilà, c'est tout.
Est-ce que vous avez d'autres remarques? Non. Donc on va passer au vote pour l'adoption de ce PV. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Ensuite, l'ordre du jour du Conseil d'aujourd'hui, vous avez deux points. Le premier, le plus important, le débat d'orientation budgétaire, et deuxièmement, le tarif de la classe découverte. Donc, je vous demande de valider cet ordre du jour. Qui est contre, qui s'abstient, à noter à l'unanimité. Avant de commencer ce Conseil municipal, je voudrais dire quelques mots sur l'Ukraine, parce que je pense que c'est un moment un peu compliqué que l'Europe vit, que notre pays vit. Nous avons la guerre à quelques kilomètres de chez nous. Nous réalisons que finalement, nous pensions être loin de tout ça, que la deuxième guerre s'était finie depuis un certain nombre d'années. Nous vivions tous très heureux. Malheureusement, aujourd'hui, l'Ukraine est en guerre. Les dernières nouvelles de cet après-midi, les bombardements s'intensifient sur les grandes villes. Kiev est assiégé. Donc je voulais dire ce soir tout le soutien, en tous les cas, du conseil municipal, de tous les administrés de Montferrier, je pense aussi, à l'Ukraine. Nous avons une pensée solidaire pour ce peuple qui est très proche de nous. Et je voulais rajouter aussi que nous avons mis en place depuis hier une action sur le village, par le biais de messages que nous avons postés sur le Facebook de la mairie et sur le site de la mairie. Nous demandons aux administrés de faire s'ils le veulent bien entendu, de faire des dons de matériel ou de produits de première nécessité. Et nous avons mis un local à disposition à la mairie où nous stockons tout ce qui est apporté par les administrés. D'ailleurs, depuis ce matin, nous avons déjà eu pas mal de choses. Il y a aussi la possibilité de donner des médicaments. Alors moi, en tant que professionnelle de santé, je vais m'efforcer de donner les médicaments qui sont nécessaires en temps de guerre, parce qu'en temps de guerre, nous avons des grands blessés, nous avons des opérations, nous avons beaucoup de choses qui nécessitent des médicaments spéciaux. Donc je vais me rapprocher de la pharmacie de Montferrier et faire une commande de produits de première nécessité, mais médicamenteux. Et je laisse le soin aux administrés d'apporter les produits de première nécessité, comme des couvertures, des couches, etc., etc. Il y a la possibilité aussi d'accueillir des familles ukrainiennes. Les premières familles ukrainiennes sont en train d'arriver à Montpellier. Et donc, si nous allons mettre donc, sur le Facebook et sur le site de la mairie cette possibilité-là, si des Montferriérains veulent accueillir une famille ukrainienne chez eux, donc il va falloir qu'ils se rapprochent de la mairie, qu'ils laissent leurs coordonnées. Et moi, je ferai passer tout cela à la métropole. Aujourd'hui, nous avons eu déjà un Montferriérain qui s'est proposé. Pour accueillir une famille, et immédiatement j'ai contacté la métropole et les coordonnées de cette personne sont allées à la métropole au cabinet du président pour pouvoir dispatcher justement les familles ukrainiennes qui vont arriver dans les différentes communes de la métropole. Donc si autour de vous, vous pouvez en parler, hein, s'il y a des gens qui sont susceptibles de pouvoir accueillir des familles, qu'ils se fassent qu'ils aillent à la mairie pour se faire référencer, et puis on passera tout ça au niveau de la métropole. Voilà ce que je voulais dire sur l'Ukraine. Nous allons mettre sur la mairie, nous allons mettre le drapeau de l'Ukraine que nous avons mis là ce soir. Pour ce conseil municipal, nous le mettrons sur le fronton de la mairie. Nous allons en mettre un sur la salle culturelle du Lévézou. Et nous avons l'intention, samedi matin au marché, de mettre une table avec le drapeau ukrainien dessus. Et nous serons présents pour justement répondre aux questions des administrés sur les dons en matériel, en produits de première nécessité, en accueil de famille, etc. On sera présent sur le marché samedi matin et on pourra renseigner comme ça les administrés. Voilà ce que la municipalité a décidé de faire pour l'Ukraine. En tous les cas, je veux dire au nom de tous ici, toutes et tous, que nous sommes derrière les Ukrainiens et que nous pensons fortement à ce peuple qui aujourd'hui subit des attaques anormales. On va pouvoir commencer maintenant le conseil municipal.
Voilà. Juste pour vous dire que nous sommes exactement sur la même ligne que vous sur ce soutien aux Ukrainiens. J'avais une question relative aux dons. On n'a pas vu de lien pour de faire des dons pécuniers. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on en reste, ce qui est déjà très bien, aux dons de médicaments et de matériel?
Je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas parlé encore des dons pécuniers, mais je vais me renseigner auprès de la métropole. De toute façon, lundi soir, je suis en réunion métropolitaine de maires, et je pense que ça va être le premier sujet qui va être abordé à ce bureau des maires. Et donc, je vais poser la question, et je vous donnerai la réponse dès que je l'aurai. Et en même temps, on mettra en place aussi la logistique de tout ce qui arrive à la mairie, et qu'il va bien falloir envoyer. Donc voilà, je sais que samedi matin, il y a un départ d'avion pour l'Ukraine. Mais je ne pense pas d'ailleurs que ce soit pour l'Ukraine. Je pense que ça va être pour la Pologne ou quelque chose, ou la Roumanie. Voilà. Nous, je pense que la semaine prochaine, il y en aura un autre. Et comme j'ai demandé aux administrés de déposer à la mairie entre aujourd'hui et mercredi prochain, nous pourrons envoyer tout cela à la métropole parce que je pense qu'il faut un regroupement de toutes les communes pour pouvoir faire un gros départ pour l'Ukraine.
Juste deux questions. La première concernant les médicaments, je n'ai pas compris comment ça va se passer, parce que imaginons que nous voulions donner des médicaments. On n'en connaît pas la liste de ce qu'il faut, et en plus je suppose qu'il y a des médicaments qui sont sous ordonnance qu'on ne pourra donc jamais faire.
C'est pour ça que je pense que les médicaments, les administrés ne peuvent pas. Ce sont unis.
C'est la mairie qui le ferait en ce moment.
Moi, je pense que je vais essayer, en tant que pharmacien, je vais, je pense, arriver à avoir certains médicaments, parce qu'en tant que pharmacien, je peux ne pas avoir d'ordonnance, et je peux, au nom de la mairie, demander une liste de médicaments dont j'ai la liste aujourd'hui, et je peux demander certains médicaments ou la totalité et faire passer en tant que mairie de Montferrier, mais moi, en tant que pharmacien, je pourrais les avoir directement. Voilà. Mais les administrés, nulle part, en tous les cas, j'ai vu que vous puissiez, enfin, que les administrés puissent arriver sur la liste des médicaments.
Voilà, c'est ça. La deuxième chose, donc, si on veut accueillir des gens,
oui.
Comment ça se passe? Tu as dit que c'est par la métropole qui s'occupe de ça.
Exactement. Aujourd'hui, mais encore en début d'après-midi, là, j'ai reçu un mail de la métropole disant, mesdames, messieurs les maires, si vous connaissez des administrés qui sont prêts à recevoir chez eux des familles ukrainiennes, faites-nous remonter les coordonnées.
Donc est-ce que quel soutien il y a par rapport à ça? Est-ce que vous en avez discuté? Parce qu'il y a quand même des problèmes qui se posent, ne serait-ce que de langue. Donc est-ce qu'il y a un soutien qui est prévu ou pas du tout? Ou tout simplement les personnes arrivent là comme ça et vont
je n'ai pas eu d'explication précise, mais je pense quand même qu'il faut un tout petit peu avoir quelques notions d'anglais. Je pense. Parce qu'avec quelques notions d'anglais, on peut arriver à se faire comprendre. Parce que l'ukrainien est très 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 loin du français quand même. Quand on entend parler les gens, on ne peut même pas comprendre un mot, à part l'Ukraine de temps en temps. Voilà. Donc je pense qu'il faut quand même avoir quelques notions d'anglais, je pense. Mais bon, encore une fois. fois lundi soir, je pense que la métropole va nous donner tout le timing, comment est-ce que les familles qui reçoivent peuvent être des familles lambda, ou est-ce qu'il faut plutôt qu'elles aient, elles sachent parler l'anglais, ou voilà, tout ça, j'aurai...
Est-ce qu'il serait possible de faire, par le biais de la mairie, du site web, un recensement peut-être des gens de la commune qui parlent ukrainien ou russe? Je pense que ça peut donner un coup de main, éventuellement, au moment de l'accueil, même si un mauvais anglais peut peut-être le servir, se retrouver dans sa langue et pouvoir parler, ça peut être un accompagnement aussi.
Très bonne idée. Très bonne idée. On va mettre un message sur le site Facebook et sur le site de la mairie. Et voilà, on va demander si parmi les administrés, il y a des gens qui parlent, et peut-être même le serbe ou quelque chose comme ça, hein, qui se rapproche quand même beaucoup plus de l'ukrainien que l'anglais, malgré tout. Hein. Donc le serbe, le croate, l'ukrainien, tout ça, ça peut être des langues intéressantes.
Après, il y a beaucoup qui parlent très bien français, hein, les Ukrainiens.
Oui, oui, il y a
énormément.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on a déjà des gens qui arrivent sur Montpellier. Je pense que ce sont des Ukrainiens qui ont déjà une notion de français. Sinon, arriver à Montpellier, voilà, plutôt arriver dans l'est de la France ou à Paris, ou Montpellier, soit il y a de la famille déjà, et du coup ils se rapprochent de la famille, soit il n'y a pas de famille et ils ont quand même quelques notions de français. Voilà, donc voilà l'état sur l'Ukraine. Et maintenant, ben, nous allons commencer donc le conseil municipal, l'ordre du jour. Donc le premier point, c'était le débat d'orientation budgétaire, et le deuxième point, donc les tarifs de la classe verte. Donc premier point, débat d'orientation budgétaire, qui va être présenté donc par M. Capot. Vous avez reçu dans vos convocations ce qu'on appelle le ROC, donc le rapport d'orientation budgétaire, qui est nécessaire pour pouvoir justement avoir un débat d'orientation budgétaire qui ne sera pas voté comme tout DOB, mais qui nous prendront acte du fait que nous en avons parlé à ce conseil municipal. Sachant que le débat d'orientation budgétaire se situe toujours en amont du vote du budget. Donc je vais laisser la parole à M. Capot qui va vous présenter le DOB.
Oui.
La question, est-ce que vous voulez qu'on intervienne au fur et à mesure ou est-ce que M. Capot tout donner?
Comme vous voulez, non, comme vous voulez. C'est...
Moi,
je pense que c'est aussi simple que si vous avez des questions à poser, vous les posez au fur et à mesure. Hein. Donc, bonsoir à tous. Hein. Donc,
je voulais préciser que moi, je ferai une intervention globale à la fin.
À la fin, d'accord. Hein,
parce que je pense que les sujets sont. Enfin, si on a des questions ponctuelles, on peut les traiter au pouvoir tout, mais si on veut traiter le budget dans sa globalité, c'est plus intéressant de faire l'intervention. Bon, ben, je le ferai comme ça, moi, bon. Mais si d'autres personnes veulent intervenir, il n'y a pas de problème.
J'ai essayé quand même de resserrer un petit peu parce que j'étais parti sur un nombre de diapositives important. Et bon, comme vous avez eu le rapport d'orientation budgétaire, donc qui vous donnait beaucoup d'informations, je vais essayer. J'ai relevé quelques diapos pour simplifier. Il n'empêche que encore cette année, j'ai pas pu vous présenter un DOB par fonction, ce que j'aurais bien aimé faire, puisqu'on avait mis en place une comptabilité analytique au début d'année. Mais malheureusement, pour le service comptable de l'Hongrie n'a pas pu me donner les informations nécessaires. J'espère pouvoir le faire au moment du budget, hein, parce qu'on se rend compte quand même que c'est plus parlant, si vous voulez, quand on dit par exemple, on va parler des écoles, on va parler du sport, on va parler de regrouper ces choses-là, plutôt que de lister, si vous voulez, les charges externes, les salaires, etc. Hein. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Donc déjà, bon, le sommaire du débat d'orientation budgétaire, donc on a les buts et objectifs, donc je vais juste les exprimer un petit peu après. On va parler des faits marquants de l'exercice 2021, tant en fonctionnement qu'en investissement. On fera une analyse sommaire du chiffre du compte administratif 2021 et son résultat et affectation. Donc je voulais vous préciser aussi une chose. C'est qu'en en fin d'année, on a changé de trésorerie, puisqu'on est passé de la trésorerie qui était à Castries à la trésorerie maintenant de Montpellier Métropole. Donc cela a entraîné beaucoup d'inconvénients. D'abord, on n'a pas eu droit à la journée supplémentaire ce qui fait qu'on a dû arrêter les comptes très très rapidement en fin d'année, donc il y a des choses qui n'ont pas été prises en compte. On avait des débits d'office, par exemple, pour par exemple l'EDF, etc., où c'était fait automatiquement et la trésorerie de Montpellier nous les a rejetés. Donc il y a eu tout un tas de complications, et surtout le problème, c'est qu'on n'a toujours pas de compte de gestion, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu rapprocher la comptabilité de la municipalité avec la comptabilité de la trésorerie. Donc on pense bon, qu'on est bon parce qu'on se suit au final, mais il peut y avoir effectivement des modifications. Ça va aussi entraîner une conséquence, c'est que si on n'a pas le compte de gestion d'ici le 15 avril, et même avant le 15 avril, parce que le 15 avril, ça ferait trop tard, ce qui voudra dire qu'on ne pourra pas reprendre les excédents de l'année 2021, ce qui veut dire qu'on aura un budget tronqué, puisqu'on sera sans les excédents. Donc on votera à ce moment-là, dans ce cas-là, un budget primitif. Ça va surtout nous pénaliser à l'investissement, puisqu'on aura une somme à investir qui sera moindre, puisqu'on n'aura pas les reports. Et puis, donc, ça va nous obliger à faire un budget supplémentaire en cours d'année. À ce moment-là, on votera le compte administratif compte de gestion, on affectera les résultats, et éventuellement, on modifiera s'il y a des choses à modifier. Voilà. Donc ça, c'était les premières choses que je voulais vous dire. On parlera de l'épargne brute et de l'épargne nette. On parlera aussi de l'évolution des impôts et dotations. On parlera des emprunts. Maintenant, on parlera aussi de la projection pour le budget primitif 2022 et les projets d'investissement qu'on compte y inclure. Donc le but et l'objectif du DOB, effectivement, bon, ça c'est le rappel de la loi. Donc ça vous l'aviez dans l'Europe, mais on peut dire qu'effectivement, il sert à informer le conseil municipal sur l'évolution de la situation financière de la collectivité, en précisant les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de fiscalité et de subvention. Hein. Voilà. Et ce rapport, effectivement, doit comporter les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes de fonctionnement et investissement, et les informations relatives à la structure et à la gestion de l'encours de la dette. Une précision sur le pluriannuel d'investissement dont on avait déjà débattu, je l'ai commencé, mais je préférerais en parler au moment du vote du budget, hein, parce que bon, ça sera plus dans le cadre, et puis bon, je ne l'avais pas encore complètement terminé. Alors oui, on disait aussi qu'effectivement, c'était un débat qui n'avait pas de vote. Alors, l'effet marquant de l'exercice en fonctionnement, ben, écoutez, on a encore été pour cette année impacté par la crise sanitaire. Ce qui a fait que, effectivement, toute la vie qui anime la municipalité, c'est-à-dire les fêtes, les associations, toutes ces choses-là, les services à la cantine, les services enfants jeunesse, tout ça a été très impacté. Et donc, effectivement, ça a eu des conséquences tant sur nos recettes que sur nos dépenses de fonctionnement. Nous espérons qu'en 2022, les choses vont évoluer et qu'on pourra reprendre une vie un peu plus normale. Sur l'investissement, eh bien, ça a été un peu une année de travail sur le projet. Hein. Et donc, on a obtenu le permis de construire de la salle de musique. Hein. Là, actuellement, les appels d'offres sont lancés. Et je pense que bon, les travaux vont pouvoir débuter, à mon avis, vers le mois d'avril. Hein. Je vois Alain Jean, hein, qui doit pouvoir me le confirmer. Je pense que vers le mois d'avril, on devrait pouvoir commencer les travaux. On a fait des demandes de subventions. On a obtenu deux subventions. Une première subvention de la métropole de 150 000 euros et une subvention qui avait été déjà attribuée un petit peu avant, de 80 000 euros du département. Donc quand on ajoute, si vous voulez, 150 000 et 80 000, ça fait 230 000. On va récupérer aussi la TVA, hein, dessus, 20%, qui en fait 15% du TTC. La salle, bon, elle va nous revenir à une centaine de mille d'euros. Hein, voilà, hein. Donc ce sera quand même une opération qui ne sera pas trop coûteuse pour la commune. On a lancé, enfin, pas moi, la commission de travaux a lancé l'étude de la rénovation énergétique de l'école. Donc le dossier a été déposé pour les demandes de subvention. Je crois que le bureau d'études a été choisi aussi, ou est en cours. Hein. Voilà. Alors on attend la subvention, puisque vous savez qu'on peut être subventionné à hauteur de 80%, ce qui ferait que quand même, ça nous aiderait considérablement, sachant quand même qu'actuellement, je crois qu'on tourne pas loin de 1,6 million hein, de travaux, hein, si je ne dis pas de bêtises, hein, voilà, c'est bien ça. Hein. Donc c'est quand même un gros projet. Bon, après, il y aura effectivement d'autres investissements qui seront réalisés dans l'année, mais ça, on le verra, si vous voulez, un petit peu après. Alors, sur la synthèse de la section de fonctionnement,
On a, bon, je vous donne les grands chiffres, hein, donc on a eu en recette 5 396 587 et 3 327 122 de dépenses, ce qui nous donne un résultat de fonctionnement de 2 069 463 euros. Il faut savoir que ce résultat intègre le report excédentaire de l'année 2020. Donc quand on passe à l'épargne brute que vous avez là, qui est égale à l'excédent de fonctionnement moins le résultat intérieur, évidemment on voit que l'épargne brute de l'année 2020, T1, pardon, s'élève à 383 593,61. Quand on a obtenu cette épargne brute, évidemment, on va aller chercher l'épargne nette, c'est-à-dire qu'on va déduire le remboursement du capital des emprunts qui a été de 31 400 et on a une épargne nette de 352 194 euros. Simplement, ce qui va nous permettre de financer les investissements, à cette épargne nette, eh bien, effectivement, on a déduit dans le fonctionnement les amortissements qui sont transférés en recette d'investissement, et donc la capacité de financement réelle est de 470 549 euros, ce qui représente 12,81% quand on fait la CAF sur les recettes réelles de fonctionnement, et c'est cette somme qui va contribuer au financement des investissements, auxquels vont s'en rajouter les quelques recettes d'investissement que nous allons voir plus tard. On voit que cette année, bon, mais en résultat, en épargne nette, bon, on n'est pas trop mal, hein, puisqu'on voit que sur les années depuis 2017-2020, c'est quand même l'année la plus importante. Je voudrais quand même dire une chose, c'est qu'on a eu beaucoup de dépenses qui ont été impactées. Hein. Par exemple, je prends le budget des manifestations qui est de l'ordre de 120 000 euros. Cette année, on a dépensé 20 000 euros. Hein. Donc il y a eu effectivement aussi des dépenses qui ont été impactées de façon importante par la crise sanitaire. Mais il faut savoir aussi qu'on a des recettes qu'on n'a pas encaissées forcément. Hein. Alors, si on regarde un petit peu l'analyse des charges de fonctionnement, des charges et des recettes de fonctionnement, alors ici, vous avez rapidement les charges et les charges générales. Donc, vous voyez, je les ai comparées un petit peu à 2020. Bon, on voit que les charges à caractère général ont progressé de 32 000 euros. Alors, dedans, vous avez tout ce qui concerne le fonctionnement de la commune, les fluides, l'alimentation, la cantine, les assurances, les honoraires, enfin, toutes ces choses-là. Donc, c'est contenu, hein, et on voit par rapport à 2019, qui était une année normale, qu'on est encore inférieur à la somme de 2019. Hein. Les charges de personnel représentent 45% des charges totales et elles ont augmenté de 35 000 euros. Les attributions de produits, alors là par contre on a eu une augmentation de 303 241, c'est tout simplement la pénalité de l'article 55 sur les logements sociaux qu'on a payé pour la première fois cette année. Les appellations d'ordre, qui sont les amortissements, ont baissé parce que l'année dernière, on avait une cession d'immobilisation de 15 540, sinon c'est relativement linéaire. Les autres charges de gestion courante, on a eu 23 000 euros de plus. Les charges financières, eh bien, elles diminuent puisqu'on est de moins en moins endetté et qu'effectivement, eh bien, on a de moins en moins d'intérêt. Hein. Donc là, ça diminue, ça représente très peu de choses. Hein. Ça représente 0,13% du montant des dépenses réelles de fonctionnement. Les charges exceptionnelles, eh bien, cette année, on a eu des charges exceptionnelles, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est en fait l'indemnité qu'on a versée pour l'histoire du pylône
à Bayard.
Oui, c'est ça, voilà. La dotation aux amortissements, mais on a continué à faire des provisions, c'est tout simplement parce qu'on a un locataire qui ne nous paye pas sur un des logements, et donc de toute façon, eh bien, on provisionne la perte qu'on risque d'avoir à la fin. Et j'espère que c'est quelque chose qui va se solutionner en 2022. Et à ce moment-là, ben, on reprendra les amortissements qu'on a depuis 2019, hein, puisque c'est la troisième année qu'on en fait. Et ma foi, on constatera la perte qu'on aura réellement à ce moment-là. Et effectivement, ça ne créera pas sur l'année 2022 une charge très importante, puisqu'on l'aura provisionné depuis 2019, 20 et 21. Voilà, on continue. Donc ici, vous avez un graphique. Donc, il vous permet quand même de voir quand même que la charge des frais de personnel représente quand même une très très grosse partie. Les atténuations de produits aussi, hein, les charges à caractère général, et qu'après les autres charges sont moindres. Alors, je vous ai fait un petit diapo là sur le personnel communal. Donc, la mairie, en fait, emploie 36 agents titulaires à temps complet et partiel. Et elle a recours à des enseignants pour les études surveillées. Donc, on rémunère 7 enseignants à la maternelle et 8 en élémentaire. Dans le service administratif, on a 5 agents. Donc, monsieur le DGS qui est à côté de moi, 3 secrétaires et une comptable. Au service technique, on a 7 agents, dont un en congé longue maladie, longue durée. Alain, dans ces agents, comme M. Busmanès, c'est pour ça que. Voilà. Alors, les deux policiers municipaux, que vous connaissez bien, on a un agent à la bibliothèque municipale, qui est une dame. On a trois agents au service enfant-jeunesse. Alors, évidemment, dans le service enfant-jeunesse, on a des personnes qui viennent pour une durée déterminée, quand il y a des camps, etc. Donc là, ça monte un petit peu, mais en titulaire, on en a que trois. Hein. Ensuite, on a tous les agents techniques, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est les personnes qui s'occupent de la cantine, des écoles et du ménage. Là, on a 15 agents. Et ensuite, on dit trois agents parce qu'ils sont affectés au service social. En fait, c'est les ATSEM qui, effectivement, interviennent au niveau des écoles. Alors, cette année, on voit que, bon, tout à l'heure, je vous ai dit que ça avait augmenté de 35 000 euros. Mais quand on déduit, si vous voulez, les remboursements qu'on a sur les maladies, en fait, c'est modéré, puisque, en fait, on n'a que 1,46% d'augmentation. Donc, on peut considérer que les charges de personnel sont restées relativement stables en 2021. Alors, juste un petit rappel pour les attributions de compensation. Vous savez, ces fameuses attributions qu'on verse à la métropole, donc qui s'élèvent quand même à 634 861. Alors, juste pour vous souvenir que, en fait, à l'époque, quand on avait perdu la taxe professionnelle, on avait récupéré les impôts ménages que percevait à l'époque la métropole, et donc on avait, en fait, on encaissait plus que ce qu'on avait transféré. Donc, depuis le début, ça a été complètement changé. Depuis, on en verse à peu près 250 000 euros par an. Une chose, c'est que nous, effectivement, on n'est pas une commune où on a beaucoup de commerce, d'industrie, etc. Par contre, effectivement, le nombre d'habitants a beaucoup augmenté. Donc, en fait, je pense que si on faisait nos calculs aujourd'hui, on serait largement bénéficiaire, puisqu'on encaisse beaucoup de taxes foncières, et par contre, peu de taxes professionnelles. Donc, en fait, le rapport aujourd'hui serait beaucoup plus pénalisant que celui-là. Et après, quand on a eu le transfert des nouvelles compétences, qui concernait évidemment essentiellement la voirie. Là, par contre, ils ont fait le calcul, si vous voulez, de ce que ça représentait dans le CA de l'année. Et donc, à ce titre-là, on leur reverse 384 986. 97 078 concernent l'investissement et 289 000 concernent le fonctionnement. Le fonctionnement, ces 289 900 n'ont pas bougé depuis les transferts. Par contre, le fonctionnement, lui, il y a un budget très spécifique qui est fait, c'est-à-dire que la somme qu'on leur verse, à ça se rajoutent diverses recettes comme le FCTVA, une partie de la taxe d'aménagement, et le transfert aussi, on leur verse une subvention et eux abondent sur cette subvention. Donc en fait, on a, on a un budget qui est quand même beaucoup plus important que ces 97 000 euros. Je crois que cette année, combien ça faisait? Il y a bientôt 240 000 euros, je crois, on a cette année. Et donc c'est avec ça.
Le FCPDA, c'est quoi?
Le FCPDA, c'est quoi? Alors, je t'explique, tu as raison. Ça s'appelle le fonds de compensation de la TVA. Quand on fait des investissements, on récupère, nous, communes, 15% dessus, ce qui représente, sur TTC, ça fait 20% sur leur taxe. Mais la métropole aussi. Et quand elle fait des investissements, comme c'est nous qui le payons, le remboursement de la TVA vient dans notre budget pour pouvoir faire des travaux. Hein? Voilà. Donc, je voulais vous rappeler ça parce que c'est un peu particulier. Alors, les autres charges de gestion courantes, donc, elles s'élèvent à 225 000 contre 202 000, ça faisait 23 000 euros de plus. Essentiellement dedans, donc, nous avons les indemnités aux élus et les subventions aux associations, aux CCAS. Donc, vous savez que maintenant, il y a une loi qui est du 27 décembre 2019 qui impose aux communes donc, d'établir un tableau en indiquant toutes les rémunérations qu'ont perçues les élus au titre de leur mandat. Donc, vous l'avez juste après. Donc, vous avez ici toutes les indemnités qui ont été versées aux élus en 2021. Donc, évidemment, pour les conseillers municipaux adjoints et conseillers délégués, il n'y a que, effectivement, la commune. Par contre, Madame le maire qui siège comme conseillère communautaire a une petite indemnité. Voilà, vous avez les chiffres qui sont là-dessous et qui retracent exactement ce que l'on trouve dans les comptes de la commune. On va passer aux recettes. Donc ici, vous avez les recettes 2021-2020. Donc vous voyez, bon, les atténuations de charges ont augmenté, sont passées à 13 000, ont augmenté de 13 000. Ça, c'est le remboursement sur les maladies de personnel, pour lequel, d'ailleurs, dans les charges sociales, on paye une somme relativement conséquente, je crois que de l'ordre de 45 000 euros. qui assure effectivement le remboursement des gens qui sont en maladie d'un certain temps, hein, c'est pas une journée, hein, voilà. Hein. Alors ça, c'est ce qu'on avait revoté dernièrement au conseil municipal. On devrait s'en sortir un petit peu mieux cette année, en sachant qu'on a amélioré la durée de remboursement, c'est-à-dire qu'on est remboursé plus rapidement. Hein. Donc les opérations d'ordre, les produits, ça c'est le 37506, c'est la neutralisation de la subvention qu'on verse à la métropole, justement pour les AC, hein, pour qu'ils viennent compléter les AC. Alors, c'est très compliqué parce qu'on le passe en charge, en produit, ça, il faut l'amortir. Enfin, bon, c'est une gymnastique comptable. Les produits et services, c'est ce qu'on encaisse, mais ça, je vais vous en donner le détail un petit peu après. Donc là, ça a baissé de 28 000. Les impôts et taxes, par contre, ont progressé de 252 000. Mais vous voyez que dans les dotations et participations, ça a baissé de 55 000. En fait, il y avait une compensation pour la taxe d'habitation qui ne figure plus en dotation, mais qui est rajoutée à la taxe sur les impôts fonciers, et donc ça passe dans les impôts et taxes. Donc en fait, l'augmentation des impôts et taxes n'est que de 200 000 euros, sur lequel il faut enlever aussi, mais ça on en parlera tout à l'heure. Les autres produits de gestion courante, ben, ça a baissé, ben, ça c'est un petit peu tous les produits qu'on reçoit au niveau de l'espace jeune, etc. Mais ça aussi, on va en parler tout à l'heure. Bon, les produits financiers, je ne vous en parle pas. Alors, les produits exceptionnels, vous voyez qu'ils ont fortement augmenté, puisqu'on était à 5 000 euros en 2020, on est passé à 123 000. C'est tout simplement le remboursement des assurances qu'on a eues pour les problèmes qu'on a effectivement eus à la cantine, et où on a fait je crois qu'on a payé pas loin de 90 000 euros cette année, et on va finir complètement en 2022 la cantine, c'est-à-dire tout ce qui est resté à faire, c'est surtout qui concerne l'intérieur et le remaniement de façade. Voilà. Ici, alors ce tableau, ce graphique est intéressant parce qu'il vous montre le poids des impôts dans les recettes de la commune. Et on se rend compte qu'en fait, les recettes de la commune, c'est les impôts et taxes et les dotations de l'État. Le reste, c'est extrêmement marginal. Alors, les produits et services, et on va vous donner un petit peu le détail des chiffres que je vous ai donné tout à l'heure. Dans les produits et services, donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On a les concessions au cimetière, en sachant qu'il y a une partie, quand il y a une concession qui est vendue, une partie va au CCAS et une partie à la commune. Hein. Et il y a eu d'ailleurs le DOP du CCAS hier, où effectivement, on a vu que dans les recettes, on avait les concessions au cimetière. Autre recette diverse, et bien ça, c'est le service enfance jeunesse. Donc vous voyez, ça ne représente pas grand-chose parce qu'effectivement, il y a moins d'activités, parce que normalement, c'est bien plus du double que ça. Le redevance à service, ça c'est la bibliothèque. Et les redevances périscolaires, alors je suis obligé de vous en dire un mot. On avait 135 000 en 2020, et vous voyez, il y a 130 000 en 2021. Tout simplement parce qu'on a eu un problème, on a eu la personne qui, en fait, alors déjà, on a changé de logiciel en fin d'année. Puisque maintenant, les personnes qui vont directement sur le site inscrire les enfants, et les paiements se font aussi d'une façon différente. Donc on a changé de logiciel, et il s'est avéré que la personne qui gère le logiciel a été absente pour maladie en fin d'année. Donc tout s'est fait très rapidement en décembre, en fin décembre. Et malheureusement, cette recette-là n'a pas été prise en compte en 2021. Donc, ce qui veut dire qu'ici, il manque 57 000 euros. Donc, normalement, on devrait avoir 57 000 euros de plus de redevances en périscolaire. C'est ce qui explique, en fait, qu'on a ce différentiel entre 2020 et 2021. Sur les impôts et taxes. Alors, sur les impôts et taxes, donc, on a cette fameuse taxe foncière et taxe d'habitation. Vous savez que tout ça a été regroupé, hein, puisque maintenant, la taxe d'habitation... D'abord, n'est plus perçu par la commune. Je parle des taxes foncières, des taxes d'habitation, des résidences principales. Hein. Donc, n'est plus perçu par la commune, mais pour les gens encore qui la payent, elle est perçue par l'État. Donc, comme on a perdu complètement la recette de cette taxe d'habitation, on a eu en contrepartie la part départementale du foncier bâti. Et donc, si vous voulez, ensuite, il y a eu effectivement un calcul qui a été fait. Et qui a donné lieu à un coefficient correcteur de façon à neutraliser, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas faire de bénéfices ou de pertes sur le transfert. Vous vous rappelez quand même que donc les bases de la taxe foncière sur le bâti ont été légèrement augmentées en 2021, Et à ça, c'est ajouté donc les 2% qu'on a voté l'année dernière d'augmentation. Donc, en fait, si vous voulez, sur le foncier, donc on a 235 000, moins les 50 000 qu'on a pu en compensation en dotation, ça fait donc 180 000 euros. Autre impôt et taxe, ça, c'est les rôles supplémentaires. Donc, on a eu très peu de rôles supplémentaires cette année, vous voyez, de 3 000 euros. La dotation de solidarité communautaire, pardon, c'est une somme de 1 million d'euros que répartit la métropole entre toutes les communes. Mais nous, comme on est un peu trop bien dotés, donc on a très peu de choses, on a 5 000 euros. Le fonds de péréquation d'état communal est bien augmenté, hein, de 10%. On était bien content. La taxe sur l'électricité a augmenté, mais rappelez-vous qu'on a été contraint, en quelque sorte, d'augmenter le taux, puisque on l'a augmenté une fois, mais en fait, de toute façon, il augmentait mécaniquement, obligatoirement, puisque maintenant, il est calculé, il est recouvert par l'État, etc. Donc, c'est plus calcul déficient. Mais l'année prochaine, sur la taxe sur l'électricité, on devrait avoir à peu près 120 000 euros. En année pleine, voilà, parce que là, c'est une année tronquée. Bon, la taxe locale, ça, c'est marginal. Et la taxe additionnelle sur les droits d'habitation, c'est le département qui nous verse, si vous voulez, qui fait une péréquation et qui nous verse en fonction des ventes de biens qui ont été vendus sur Montferrier. Donc, c'est en fait, vous savez, quand vous achetez quelque chose, vous avez les honoraires de notaire, dedans, vous avez des droits. Bon, mais c'est, voilà, c'est une partie de ces droits qui est reversée aux communes. Alors, sur les dotations et participations, il y a la dotation forfaitaire, ce qu'on appelle la DGF, dotation qui, chaque année, diminue d'année en année. Alors, donc, là, on avait perçu 78 000 en 2020, on a perçu 68 000 en 2021, et on nous annonce 54 000 en 2022. Ben, c'est parce que les gens de Montferrier gagnent un peu plus d'argent. Et la seule chose pourquoi on l'a encore conservé, parce qu'il y a beaucoup de communes pas mal de communes qui l'ont perdu, c'est qu'on a quand même une augmentation de la population. Et cette augmentation de la population a fait qu'encore cette année, on l'aperçoit, en 2022, je ne suis pas certain qu'on puisse la budgéter en 2023-2024. Je pense que c'est quelque chose qui va disparaître. Et d'ailleurs, c'est Jean-Marie qui me disait que certaines communes avaient des DGF négatives. Voilà, donc il y a des gens même qui versent de l'argent. J'espère que ce ne sera pas notre cas. Bon, la dotation de solidarité rurale, bon, mais ça va, on l'a maintenue. Le FCTVA, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais avant, on ne perçait le FCTVA que sur l'investissement. Et maintenant, il y a, sur une partie des dépenses de fonctionnement, on le perçoit. Et vous voyez, donc on a eu cette année 9 758 euros. Ensuite, dans les autres dotations, on avait perçu 8 000 euros en 2020. Alors ça, c'est les élections. Et en fait, on avait eu une prime Covid de 7 000 euros en 2020. C'est pour ça qu'on avait une somme plus importante et qui n'a pas été reconduite en 2021. Les autres organismes, c'est tout simplement ce qu'on perçoit de la CAF, hein, c'est la caisse d'allocation familiale, sur tout le service enfant jeunesse, les crèches, etc. Ensuite, on a les compensations. Donc, sur la taxe foncière, on a eu 5 000 euros. Et ce que je vous disais, la compensation sur la taxe d'habitation, vous voyez, on avait 52 000 en 2021. En 2020, il n'y en avait plus que 1 500 euros. En 2021, on avait perdu 50 000 euros, mais on ne les a pas perdus. Ils ont été mis dans les impôts locaux.
Alors, tu vois les 50 000 euros perdus par rapport aux 235 000 que tu as en plus.
Et voilà, si tu veux, en fait, ces 50 000 euros qui ne figurent plus en dotation, en fait, ils sont inclus dans les impôts locaux qu'on a vus sur le tableau précédent.
Donc, plus 235, moins 50 ou 235, c'est l'excédent?
235, en fait, on avait 235 auxquels ils font enlever. Dedans, il y a les 50 000 euros. Voilà, oui. Donc, ça fait que 180. C'est ce que je disais.
C'est plus 180, c'est pas plus de 135.
Je comprends pas ce que tu veux dire.
En
2020, on avait encaissé 2 567 000. En 2021, on a encaissé 2 003
000. Et les 50 000 ?
Mais les 50 000, ils sont dans les 2 003
000. D'accord.
Hein? Donc c'est pour ça que je dis que si tu calcules l'augmentation réelle des impôts, c'est pas 235, c'est 180.
Oui, l'augmentation de points, c'est 180 000 euros.
Exactement. Voilà, exactement. Hein? Exactement. Alors ça c'est bon, on l'a vu. Encore, on continue. Bon, là je vous rappelle juste les taux des impôts. Hein? Donc le taux de la taxe foncière sur les bâtis était passé de 20,67 à 22,67, auxquels se sont ajoutés les 21,45 du départ de la part départementale, qui a été compensée par ce qu'on appelle le COCO, le coefficient correcteur, et dessus, on a reversé, je peux vous dire, la somme, 175 000 euros. C'est-à-dire que sur la somme qu'on a, hop, l'État nous a pris 175 000 euros parce que la part départementale était excédentaire par rapport à ce qu'on perdait sur la taxe d'habitation. La taxe foncière sur le non-bâti, ben, il est resté toujours le même, 79, 113. Il faut savoir que cette part, elle diminue d'année en année parce que les terrains se construisent. Donc quand ils se construisent, eh ben, effectivement, ils passent en terrain bâti et ils ne sont plus en non-bâti. Le taux de la taxe d'habitation, parce qu'on continue à le percevoir sur les résidences secondaires, ça représente à peu près, en année pleine, 47 000 euros. Le taux est gelé jusqu'en 2023 et il est de 11,95%. La DGF, bon, ben là, je vous l'ai dit, hein, la DGF, donc vous voyez, en 2013, on encaissait 370 000 euros de DGF, on est à 54 000 aujourd'hui, et comme je vous dis, à mon avis, d'après les calculs qu'on a vus au moment de la loi de finances, on a eu une formation loi de finances et il avait calculé pour l'ensemble des communes, donc on a bien vu que nous, on était vraiment tout à fait à la fin et qu'à mon avis, en 2023, on ne devrait plus rien percevoir. Bon, les deux autres dotations, la DSR, bon voilà, ça je vous en ai parlé, le FCTVA aussi, donc on passe. Et on va passer à la section d'investissement. Alors, la section d'investissement, cette année, elle ressort bénéficiaire de 303 136 euros. Donc, vous voyez, vous avez eu des dépenses pour 408 000 et des recettes pour 711 000 euros. Alors, on va passer à la suite où on voit un petit peu en quoi se consistent les recettes d'investissement. Donc, on a le report de l'année précédente qui était bénéficiaire de 244 800. Les opérations d'ordre, ben, c'est les amortissements transférés, hein, 123 000. Les dotations et fonds divers, 280 000, les subventions d'investissement, 61 000, les exploitations corporelles, 2 300. Sur la recette, on a un détail rapide. Ça, c'est les dépenses. Donc, les opérations d'ordre, donc 37 506, les emprunts, 31 400, c'est le remboursement du capital. Alors, les opérations d'ordre, ça, c'est la neutralisation. Alors, on l'a dans les recettes. Dans les opérations d'ordre, et ensuite, on a les amortissements plus 37 506 qui se compensent par la section d'investissement. Donc c'est juste une écriture comptable. Hein. Les emprunts, 31 400, c'est le capital des emprunts. Les immobilisations incorporelles, ce sont des immobilisations incorporelles, des honoraires, des choses comme ça qu'on a payées. Les subventions d'investissement versées, ça par contre, c'est les 37 506 qu'on a versées en 2021 à la métropole, en sachant que la métropole, elle, abonde de même montant. Hein, donc c'est quand même une opération qui pour nous est très intéressante, parce que dans 37 000, ça nous sert à préparer nos routes, mais en même temps, la métropole dans 37 000. Les immobilisations corporelles, on va avoir le détail, 239 000 euros, les immobilisations pour 27 000 euros, ça c'est je vous en donner le détail, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on a dépensé en 2021? Terrain de sport, 17 840. Il y a eu deux choses dedans. Il y a eu le remaniement du terrain synthétique qu'on fait une fois tous les X années pour remonter les billes, pour remettre un peu, pour essayer de prolonger un peu la durée de vie du synthétique. Travaux mairie, ben, on a refait tout le secrétariat. On a refait les peintures, les sols, etc. Bâtiment scolaire, 130 000 euros, ben, il y a essentiellement la réparation de la cantine, plus divers travaux. Il y avait la toiture, encore il y avait une facture de toiture qu'on avait fait, qui venait de l'année précédente. Bon, le bâtiment, c'est tous les petits travaux qu'on fait au Devesou, etc. L'animation du village, 7471, c'est patrimoine, en sachant, histoire et patrimoine, en sachant qu'il y a une partie des choses qui sont passées dans d'autres comptes, parce que je crois qu'on a dépensé un petit peu plus. Hein. Je crois que c'est de l'ordre de 10 000 euros, je crois. Hein. Hein, c'est qui l'avait fait ça?
C'est Valérie.
Voilà. Non, mais on ne retrouvait pas nos petits parce que en fait, j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient passées dans d'autres en fonctionnement.
D'accord.
Voilà, des petites choses, des bandeaux, des choses comme ça. Bon, matériel informatique, il y a eu un gros effort sur le matériel informatique, tant au service administratif qu'aux écoles, hein, puisque on a rééquipé les écoles avec des ordinateurs, des écrans. À la mairie, on a changé des ordinateurs, on a mis une baie de brassage, on a mis un onduleur, enfin, on a fait plein de choses. Ben ça, c'est fait. Hein. Mobilier divers, 18 000, ben parce que aussi, quand on a refait les bureaux, etc., on avait des armoires qui tombaient en ruine, on les a changées, bon, ben donc on a dépensé un petit peu de sous là-dessus. Matériel de transport, c'est la remise en état du Land Rover du comité des DCCFF. Et on a des logiciels, en particulier le logiciel cantine, par exemple, pour 8 000 euros. Voilà les dépenses d'investissement. Le résultat, eh bien, là, on ne va pas l'affecter puisqu'on n'a pas le compte de gestion, mais normalement, en 2021, sur 2022, on pourra donc mettre un excédent de fonctionnement en fonctionnement de 2 069 000 et en investissement de 303 000. Et je rappelais que bon, on n'avait pas le compte de gestion, on passe, c'est de la redite, et on va maintenant se projeter sur l'année 2022. Alors, pour les charges à caractère général, bon, évidemment, on espère qu'on va retrouver une année un petit peu plus normale, que les manifestations vont se faire, que les services en banque jeunesse va faire toutes ces activités, etc. Et donc, nous aurons effectivement des dépenses supplémentaires, avec quelques recettes supplémentaires aussi. Par contre, il nous faut tenir compte quand même des augmentations importantes, et en plus, en ce moment, ce n'est pas en train de s'arranger, sur l'électricité, le carburant, que quand même les prix remontent un petit peu pour tout. Hein. Et donc ça, il faut quand même qu'on en tienne compte dans notre budget, parce que sinon, on va passer à côté. Hein. Et je pense que pour l'électricité, par exemple, on avait prévu 20%, hein, et je pense qu'on les aura largement. Le pétrole ne fait qu'augmenter, hein, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Donc tout ça, il faut qu'on en tienne compte quand on va préparer notre budget. Hein. Sur les charges du personnel, eh bien, il y a des modifications en 2022. On a la secrétaire principale donc, qui est partie à la retraite, et donc on est en train de faire un recrutement, mais bon, entre le moment où on va la trouver et puis maintenant qu'elle est partie, il va peut-être se passer du temps, il faudra qu'on évalue tout ça. Et on s'était posé la question de l'embauche d'un policier municipal, et il nous semble que ce qui aiderait beaucoup, c'est un ASVP. Qui pourrait faire les sorties d'école, qui pourrait, et ce qui nous coûterait quand même beaucoup moins cher. Hein, voilà, donc on se dirige un peu vers ça. Pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais on se dirige vers ça. Sur les autres charges de gestion courante, bon, il n'y a pratiquement pas de changement dans ce chapitre, ça ne demande pas de. Les produits et services, bon, mais je redis un petit peu la même chose, hein, c'est que si le service jeunesse reprend, eh bien, les recettes, les dépenses reprendront. Sur les impôts et taxes, normalement, Pas d'augmentation de taux, évidemment. Par contre, vous savez que il y a une forte augmentation du coût à la construction. Donc les bases, ce n'est pas nous qui les revalorisons, c'est l'État. Et en général, on avait des augmentations qui étaient inférieures à 1% hein, ces dernières années, hein, pour ne dire pas grand-chose. Cette année, on nous annonce 3,4% d'augmentation des bases, ce qui va faire effectivement une augmentation des impôts. C'est ici qu'il est payant, mais des recettes supplémentaires pour la commune, en votre problème, hein, parce que vous ne nous parlez que de dépenses, moi je parle plutôt de recettes. Donc voilà, la DGF bon, qui disparaît. Les taux d'imposition, je rappelle simplement qu'ils ont augmenté de points, qu'il n'est pas question de l'augmenter en 2022. Alors bon, je signale juste une chose, c'est que la taxe sur les résidences secondaires, sur les habitations, dans les communes qui sont des communes touristiques, elles sont en train d'augmenter, d'exploser. Peut-être, bon, ça ne représente pas grand-chose, hein, 47 000 euros, hein, donc même si on augmente, ça ne fera pas grand-chose. Il y a un levier, mais bon, c'est comme ça, juste pour le signaler. Hein. Les emprunts. Alors les emprunts, vous avez mis le petit tableau. Hein, donc à ce jour, il ne reste que 2 emprunts. La salle culturelle du Bidevezou qui est pratiquement terminée, et le bâtiment qu'on avait construit au Grèze. Donc le capital restendu à fin 2021, il est de 94 000, ça représente un peu moins de 24 euros par habitant, hein, puisque sur la population des GF, on est un peu plus de 4 000 habitants. C'est très peu, mais je pense que quand on va faire le prochain budget 2022, effectivement, on envisage quand même des investissements relativement conséquents hein, dans les années à venir. Et je pense qu'il sera peut-être temps de faire un emprunt. Pourquoi ? Parce que les taux sont encore bas. Et que ça serait dommage d'attendre que les taux remontent, parce que bon, on se dirige quand même vers des augmentations de taux. Donc je pense que dans le budget 2022, on va intégrer l'emprunt qu'on voulait faire, parce que en plus de ça, on a des emprunts qui se terminent, donc ce qui veut dire qu'on ne va pas changer la face des choses, ça va légèrement augmenter l'annuité, mais très peu. Et c'est vraiment, je pense, vraiment si on doit le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà, là vous avez le tableau des emprunts, mais vous l'avez eu dans le robin, voilà. Alors, les projets d'investissement pour l'année 2022. Alors, les projets d'importance, c'est quoi? Bon, la construction de la salle, effectivement, du DVSU, hein, donc ton jeu.
La salle de musique,
pas du tout. La salle de musique, oui. Mais enfin, je dis du DVSU parce qu'on est parce qu'elle est ici. Alors, les caméras. Bon, vous savez qu'on a des caméras qui ne marchent pas trop bien en ce moment, hein, donc là, on va faire un effort très important là-dessus. Donc, on a prévu, mais ça, je vous laisser parce que Fred en parlait, hein, on a prévu donc. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup que tu en parles, Fred, parce que c'est quand même c'est toi qui.
Donc, là, il y a un investissement conséquent parce que donc, tout le parc est à rénover, il y a des nouvelles caméras qui vont être installées. Et dans l'investissement, en fait, il y a deux points. Le premier point, ça va être le matériel, donc la caméra en tant que telle. Pour vous donner un chiffre, hein, une caméra, c'est à peu près avec batterie. Tourne autour de 8000 euros hors taxes. Il faut prendre le micro pour
ça, serait bien. Voilà. Ça serait bien parce que là, tu parles dans le visage.
Donc le matériel, donc c'est 8000 euros hors taxes pour une caméra. Et associé à chaque fois, puisque l'idée étant d'avoir un parc qui soit moderne, c'est de mettre la fibre pour que la liaison caméra vers le centre de police soit fibrée, hein, ce qui permettra de meilleure qualité d'image. Et donc là, il y a un coût, hein, puisqu'il faut raccorder à la fibre, qui n'est pas la fibre domestique, hein, c'est une fibre noire. Et donc ce coût est environ de 5 000 à 15 000 euros pour chaque site. Donc du coup, on est sur cette année à la louche, hein, autour de 200 000 euros. Et sur l'ensemble du mandat, ça sera un investissement qui sera bien plus, hein, à hauteur de 150 à peu près 1 millier d'euros.
Voilà. Et d'ailleurs, ça, on le retrouvera dans le curé annuel. Hein. Qu'on en parlera. Alors, après la rénovation énergétique des écoles, ben, je vous en ai parlé, hein, dossier. Ah, pardon, oui.
La durée de vie des caméras et la formation du personnel, c'est pour vous inclure.
Alors, il y aura une maintenance associée, mais la durée de vie n'est pas incluse, évidemment. Il y aura une maintenance et le personnel, oui, sera la formation du personnel. Associé au bureau logiciel sera inclus. Et là, ça sera dans la section fonctionnement.
Et le personnel, ce sont les policiers municipaux, hein, qui ont droit de regard sur les caméras uniquement.
Et la gendarmerie, éventuellement,
ah, oui, c'est au sein de la commune.
Voilà. Bien, je continue. Bon. Parce qu'on arrive à la fin. Hein. Donc la rénovation énergétique des écoles, bon, effectivement, je vous le signalais tout à l'heure, hein, le dossier est très avancé, les demandes de subventions sont faites. Les travaux de la cantine, ils devraient être terminés à l'été. La rénovation des...
Tu peux donner trois explications sur les travaux de la cantine?
Oui. Qui, moi?
Oui.
Oui, vous savez que sur la cantine qui a été construite il y a une dizaine d'années, nous avons eu quelques problèmes dus à la présence d'un câble EDF qui n'avait pas été signalé au moment où nous avons demandé la DICT. Bien, donc nous avons fait le renfort, après avoir d'abord attaqué les différents intervenants, nous avons gagné les procès et nous avons pu disposer d'un capital de, je crois, 110 000 euros. 110 000 euros, une partie de ce capital a donc été déjà dépensée pour l'extérieur de la cantine, c'est-à-dire consolider les fondations. À l'heure actuelle, c'est encore en observation. Nous veillons à ce que ces fissures, surveillons ces fissures qui sont apparues à l'époque, à l'heure actuelle, ça a été très stabilisé. Et maintenant, nous allons pouvoir entreprendre la réparation de l'action de ces fissures sur l'intérieur de la cantine. Il y a des désordres sur le carrelage, il y a eu des désordres sur certaines ouvertures, d'autres désordres également sur le placoplate de certaines. Enfin bref, il y a un certain nombre de choses qui sont en désordre et que nous veillons maintenant à réparer. Nous en sommes, donc ça devrait être fait dans le courant de l'été. Hein. La façade, c'est la même chose, hein. Vous aurez une jolie façade, alors qu'en ce moment, c'est pas très... Voilà, c'est tout. Ah oui, alors oui, alors en plus, alors ça par contre, ça ne rentre pas du tout dans ce que je viens de vous dire au niveau des travaux et des ordres qui ont été observés. La plonge commence à donner des signes de fatigue, notamment au personnel, parce que la machine a tendance à, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais elle a tendance à fatiguer considérablement le travail du personnel. Moyennant quoi, on va changer, on va refaire la plonge, on va moderniser, et donc ça c'est compris, je pense, dans le budget que tu as prévu.
Et ça se fera également
cet été.
Donc beaucoup d'activités cet été dans la commune.
Oui, effectivement, la plonge elle est inclue dans le projet voilà. de l'UNA2, donc on va effectivement. Qu'est-ce que...
Alors sur la rénovation des aires de jeu à l'école, on a déjà parlé, c'est surtout cette année sur l'école maternelle, changement des jeux qui sont présents dans la cour. On s'oriente sur principalement le grand jeu, changement du grand jeu et la mise en place d'une espèce de petit chalet en bois et une table avec des chaises. Les égayères, on n'a pas encore eu l'occasion de le travailler en commission, mais la commission a été informée qu'il y avait ce sujet-là. L'idée étant de proposer sur cette place des jeux qui correspondent un peu plus à des âges un peu plus avancés également, puisqu'aujourd'hui nous avons des jeux qui existent mais qui visent un public très très jeune. L'idée voilà, serait de proposer quelque chose d'un peu plus structuré et on aimerait, si possible, que cela soit réalisé sur l'année 2022.
Christian, tu veux parler du paddle ?
Ah, du paddle ? On l'a réceptionné avec.
Bien.
Tu en as parlé ?
Oui, donc le paddle, on l'a réceptionné ce soir. Je pense pas que ça marche.
Donc on a réceptionné le paddle ce soir avec Alain Jam. Bon, a priori, c'est plutôt conforme aux attentes. Je pense que les gens ont bien travaillé. On a eu effectivement un petit peu de retard compte tenu, comme vous l'avez signalé, de l'accident cardiaque qu'a eu le patron de l'entreprise, M. Roux. Bon, il s'en sort bien et puis le paddle est terminé, donc tant mieux. A priori, il va falloir maintenant réfléchir sur le mode de fonctionnement par rapport au tennis et notamment la gestion des entrées. Alors, on a fait faire des devis concernant l'entrée.